Vous écoutez On lit pour vous.
Pour les voyageurs LGBTQ+, le véritable luxe est parfois de pouvoir respirer librement. Un texte de Laurent Cartier, paru le 16 juin 2026, dans Fugue. Lorsqu'il est question de choisir une destination vacances, la plupart des voyageurs pensent d'abord au climat, aux paysages ou aux expériences culturelles offertes sur place. Pour de nombreuses personnes LGBTQ+, la réflexion commence souvent ailleurs. Avant même de comparer les prix ou de rêver aux plages et aux monuments, une question fondamentale s'impose. Est-ce un endroit où je pourrais être moi-même? Cette réalité est au cœur d'une récente étude qualitative menée par MMGY Global, l'un des principaux cabinets nord-américains spécialisés en marketing touristique et en analyse des comportements des voyageurs. Dans le cadre de sa série Culture Council, l'entreprise a organisé plusieurs groupes de discussion, réunissant 90 consommateurs issus de diverses communautés, notamment noirs, hispaniques et LGBTQ+, afin de mieux comprendre leurs motivations, leurs préoccupations et leurs perceptions des destinations touristiques. Les résultats consacrés aux voyageurs LGBTQ+ révèlent une réalité qui dépasse largement les considérations habituelles liées au tourisme. Pour plusieurs participants, la sécurité et le sentiment d'être véritablement les bienvenus demeurent les premiers critères de sélection d'une destination. Voyager là-bas me donne l'impression de pouvoir enfin baisser la garde, explique l'un des répondants. Un autre résume l'expérience en quelques mots. C'est un endroit où vous pouvez être qui vous êtes. Personne ne vous observe. Ces témoignages illustrent le poids émotionnel qui accompagne encore les déplacements de nombreuses personnes LGBTQ+. Alors que certains voyageurs choisissent une destination en fonction de sa gastronomie ou de ses activités, d'autres doivent encore se demander s'ils pourront tenir la main de leur partenaire en public, partager une chambre sans susciter de réaction ou simplement vivre leur séjour sans devoir constamment évaluer leur environnement. Selon les participants, la sécurité n'est pas un avantage supplémentaire qu'une destination peut mettre de l'avant dans sa publicité. Elle constitue plutôt un filtre de base qui détermine si un endroit sera envisagé ou écarté dès le départ. L'authenticité plutôt que les symboles. L'étude met également en lumière une certaine méfiance envers les stratégies de marketing qui visent uniquement sur les symboles de la diversité. Au cours des dernières années, plusieurs destinations ont multiplié les campagnes aux couleurs de l'arc-en-ciel afin d'attirer la clientèle LGBTQ+. Pourtant, les voyageurs interrogés se montrent souvent sceptiques devant ce type d'approche lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'engagements concrets. « Je n'ai pas besoin d'un drapeau arc-en-ciel, j'ai besoin de sentir une bonne énergie », affirme l'un des participants. Pour plusieurs répondants, la crédibilité d'une destination repose sur sa capacité à démontrer une inclusion authentique tout au long de l'année. Une ville qui célèbre la fierté en juin, mais dont les actions inclusives disparaissent le reste du temps, risque de susciter davantage de méfiance que d'enthousiasme. Les voyageurs LGBTQ+ cherchent des signes tangibles, des commerces accueillants, des événements communautaires diversifiés, des politiques inclusives et surtout des témoignages de personnes qui ont réellement vécu l'expérience. Le bouche-à-oreille de la communauté. L'étude révèle que les voyageurs LGBTQ+ accordent une importance particulière aux recommandations provenant de leur propre communauté. Les expériences racontées par d'autres voyageurs queer sont souvent perçues comme plus fiables que les campagnes publicitaires ou les guides touristiques traditionnels. Si les voyageurs LGBTQ+ me disent qu'un endroit est sécuritaire et agréable, je vais les croire, explique un participant. Les réseaux sociaux jouent désormais un rôle central dans ce processus. Instagram, TikTok et d'autres plateformes permettent aux voyageurs de voir comment les gens vivent réellement sur place. Les vidéos spontanées, les photos non retouchées et les récits personnels inspirent souvent davantage confiance que les contenus promotionnels soigneusement scénarisés. Cette recherche d'authenticité reflète une volonté de se projeter dans une expérience concrète plutôt que dans une image idéalisée. Une représentation qui ressemble à la vraie vie. Les participants ont également exprimé des attentes précises quant à la façon dont les personnes LGBTQ+ sont représentées dans les campagnes touristiques. Contrairement à ce que certains spécialistes du marketing pourraient croire, les voyageurs ne souhaitent pas nécessairement que leur identité soit au centre du message. Ils veulent plutôt se reconnaître dans des situations ordinaires. Un couple qui se promène dans un quartier historique, une famille qui profite d'une journée à la plage, des amis qui découvrent un nouveau restaurant, des scènes simples qui reflètent la réalité quotidienne. Montrer des personnes LGBTQ+ qui vivent simplement leur vie, résume l'un des répondants. Plusieurs participants ont également souligné que les représentations demeurent parfois limitées. Les campagnes mettent souvent en scène de jeunes couples sans enfants, alors que les réalités familiales LGBTQ+ sont aujourd'hui beaucoup plus diverses. Familles homoparentales, couples plus âgés, personnes trans ou non-binaires, les voyageurs souhaitent voir cette diversité reflétée dans les images qui leur sont présentées. La réalité économique compte aussi. Au-delà des enjeux liés à la sécurité et à la représentation, le coût demeure un facteur important dans la décision de voyager. Plusieurs participants ont mentionné que certaines destinations apparaissent attrayantes, mais deviennent difficilement accessibles lorsqu'on considère les frais de transport, d'hébergement ou les dépenses sur place. Certains répondants ont également évoqué une réalité moins souvent discutée. Plusieurs personnes LGBTQ+ ne bénéficient pas nécessairement des mêmes réseaux de soutien familial ou financier que d'autres voyageurs. Cette situation peut influencer leur façon de planifier ou de financer leurs vacances. Dans ce contexte, la transparence sur les prix devient essentielle. Les voyageurs souhaitent pouvoir évaluer clairement ce qu'ils obtiendront pour leur argent et éviter les mauvaises surprises. Voyager pour la joie. Bien que l'étude de MMGY Global repose sur des groupes de discussion plutôt que sur un sondage statistiquement représentatif, ses conclusions rejoignent celles de nombreuses recherches menées au cours des dernières années sur le tourisme LGBTQ+. La sécurité, l'inclusion et l'authenticité figurent régulièrement parmi les critères les plus importants pour cette clientèle. Mais au-delà des considérations pratiques, un autre élément ressort avec force. Les voyageurs LGBTQ+ cherchent avant tout des expériences positives. Les contenus qui les interpellent le plus ne sont pas ceux qui mettent l'accent sur les revendications ou les enjeux politiques, mais ceux qui célèbrent la joie, la découverte, les rencontres et la liberté d'être soi-même. Dans un contexte mondial où les droits LGBTQ+ progressent dans certains pays tout en reculant dans d'autres, les destinations qui inspirent confiance sont celles qui réussissent à créer un véritable sentiment d'appartenance. Pour ces voyageurs, le véritable luxe ne se résume pas à un hôtel 5 étoiles ou à une plage paradisiaque. Il réside parfois dans quelque chose de beaucoup plus simple, la possibilité de respirer librement, de vivre pleinement le moment présent et de voyager sans avoir à cacher une partie de soi-même. C'était, pour les voyageurs LGBTQ+, le véritable luxe est parfois de pouvoir respirer librement, un texte de Laurent Cartier, paru le 16 juin 2026, dans Fugue.
Victoire devant les tribunaux pour l'accès aux garderies. Un texte de Louis-Philippe Janard et Maryse Poisson, avec la collaboration de Tania Henriques, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. L'histoire commence en 2018, lorsque le gouvernement libéral de l'époque réinterprète le règlement sur la contribution réduite afin d'exclure les personnes en demande d'asile de l'accès aux garderies subventionnées du Québec, une décision purement administrative. Le comité accès garderie naît rapidement de l'alliance de médecins pédiatres, de travailleuses sociales et d'autres professionnels de la santé, ainsi que de nombreux organismes communautaires dont le collectif Bienvenue et la TCRI. Avec des personnes directement concernées par cet enjeu à ses côtés, le comité entame des démarches de mobilisation et de sensibilisation du public et des médias par des lettres ouvertes, pétitions, conférences de presse, actions symboliques, etc., en plus de mener des représentations auprès du ministère de la Famille et des différents partis politiques afin de convaincre le gouvernement de revenir sur sa décision. Entre autres actions, une proposition d'amendement, appuyée par l'ensemble des partis d'opposition, est faite, mais finit rejetée par le parti au pouvoir, la Coalition Avenir Québec, CAQ. Des plaintes sont aussi déposées à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi qu'auprès du protecteur du citoyen, mais sont malheureusement jugées hors mandat. C'est en 2019 que les juristes Sybille Attiogoul et Guillaume Grenier, du cabinet Melançon-Marceau-Grenier-Cohen, acceptent de représenter gratuitement Madame Kaninda, une mère de 3 enfants en demande d'asile qui accepte d'être la figure du litige. En juin 2019, l'affaire est d'abord portée devant la Cour supérieure, qui tiendra ses audiences en avril 2022. Deux principaux arguments sont présentés, l'un de nature administrative et l'autre de nature constitutionnelle. Le juge Saint-Pierre retient le premier et conclut que le ministre n'était pas habilité par la loi à déterminer par règlement des catégories de personnes admissibles ou non à la contribution réduite. C'est une première petite victoire. Quant à l'argument constitutionnel, il est rejeté, le juge estimant que le règlement n'est pas discriminatoire. La décision est portée en appel par le gouvernement dirigé par la CAQ, qui conteste la conclusion en lien avec l'habilitation législative, tandis que Mme Kaninda et ses avocats contestent la conclusion en matière de discrimination. Entre-temps, les familles n'ont toujours pas accès aux services de garde subventionnés. En février 2024, la Cour d'appel du Québec accueille les 2 appels, rejetant les conclusions du juge Saint-Pierre. S'il ou elle rejette l'argument administratif, les juges Dutille, Moore et Mainville sont toutefois d'avis que le règlement est discriminatoire, sur la base du sexe, puisque les mères en demande d'asile subissent de manière disproportionnée les effets du non-accès aux garderies subventionnées. Voilà une 2e victoire, donc, sur le plan des droits humains cette fois. À la suite de cette décision, le gouvernement du Québec annonce son intention de faire appel devant la Cour suprême. Il demande aussi à la Cour d'appel de suspendre l'effet de son jugement, ce qu'elle refusera, faisant en sorte que les familles en demande d'asile retrouvent alors l'accès aux garderies subventionnées. Pour celles qui arrivent à trouver une place, plus de 1175 sont alors libres sur l'île de Montréal, notamment en milieu familial. Les effets de cette décision se font sentir rapidement en augmentant la possibilité de se trouver un emploi, de quitter un logement insalubre, de délaisser l'aide sociale, etc. La saga se poursuit en mai 2025, la Cour suprême devant entendre les parties et plus d'une 20aine d'intervenants et intervenantes. Le comité accès garderie mobilise 2 autobus remplis de demandeurs et demandeuses d'asile concernés qui se rendent sur place pour écouter les audiences, tenir un point de presse et des activités de mobilisation. La Cour rend son jugement en mars 2026 et confirme la décision de la Cour d'appel du Québec. L'interdiction d'accès des personnes en demande d'asile constitue bel et bien une mesure discriminatoire en raison des effets disproportionnés que subissent les mères. Épinglant au passage les discours politiques, la Cour suprême reconnaît que ces personnes font face à des stéréotypes, à un désavantage historique et à des vulnérabilités particulières au sein de la société canadienne. Il s'agit donc d'une 3e victoire pour les familles en demande d'asile au Québec. Vous écoutez « Victoire devant les tribunaux pour l'accès aux garderies », un texte de Louis-Philippe Janard et Maryse Poisson, avec la collaboration de Tania Henriques, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Les défis et leçons à tirer. Ponctuée de violence, cette très longue saga judiciaire a aussi comporté son lot de défis et de leçons que nous souhaitons humblement commencer à analyser. D'abord, dès le début, la mobilisation a été clé. Le comité accès garderie a réussi, avec des ressources évidemment limitées, à rassembler des milieux communautaires et professionnels variés provenant du réseau de la santé. Il nous a semblé que l'implication continue de médecins pédiatres, et de travailleurs sociaux et travailleuses sociales spécialisées auprès des personnes en demande d'asile a permis d'insuffler de l'expertise à la lutte, alors que la contribution du milieu communautaire a certainement été porteuse sur le plan organisationnel et politique. Un autre apport des professionnels de la santé aura certainement été de documenter les conséquences du non-accès aux services de garde. À cet égard, une expertise spécifique produite par Jill Henley, professeure en travail social à l'Université McGill, a été plus qu'utile lors des procédures devant les tribunaux. D'autres auraient pu l'être aussi, et avec le recul, il nous semble qu'il aurait été pertinent d'anticiper davantage les besoins de recherche et de documentation des enjeux, par exemple en interpellant davantage les services de recherche de nos universités. Bien que l'équipe juridique ait travaillé pro bono pour défendre cette cause, le comité Accès Garderie a tout de même eu la responsabilité de constituer un fonds important pour couvrir les autres frais judiciaires. Une levée de fonds publics a permis d'amasser plusieurs dizaines de milliers de dollars et Centraide a généreusement offert un financement pour assurer les frais potentiels liés à la dernière étape en Cour suprême. La mobilisation de différents milieux, syndicaux et autres, a permis de récolter ces sommes sans trop de maux de tête, un soutien précieux. Une lutte qui s'étend sur une aussi longue période pose aussi d'importants enjeux liés à la mémoire militante et au roulement de personnel dans les organismes concernés, d'autant que d'autres batailles les mobilisaient aussi. Peu de personnes ont été impliquées du début à la fin, ce qui rend plus difficile de réfléchir ensemble à ce que notre stratégie d'utiliser la voie judiciaire peut nous enseigner pour l'avenir. Il serait aussi pertinent de se questionner d'une part sur les possibilités de laisser plus de pouvoir aux premiers et premières concernés dans le processus, et d'autre part, sur les enjeux spécifiques de la prise de parole publique des personnes à statut précaire. Tania Henriques, porte-parole durant plusieurs années, nous en dit ceci. « J'étais la voix des sans-voix qui faisait entendre tous les défis des femmes les plus touchées. Comme mère monoparentale réfugiée, je ne pouvais pas travailler depuis mon arrivée au Canada, prendre soin de moi, j'étais incapable de quitter mon logement insalubre. J'ai vécu ma peur de parler publiquement de ce que nous, les mères seules, vivons sans accès à la garderie subventionnée, dans un Québec qui porte la réputation de respecter les droits des femmes. Aujourd'hui, je sens que je peux m'exprimer sans peur. » Vers un retour à la lutte sur le plan politique, durant cette longue saga judiciaire, un vent de politique anti-immigration a définitivement soufflé sur le Québec et le Canada. Les tribunaux, en donnant raison trois fois aux personnes en demande d'asile alors que les principaux partis politiques s'y opposaient, auront définitivement montré leur capacité de contribuer à la protection des droits fondamentaux. Bien qu'on leur reproche souvent d'être en retard sur les enjeux sociaux, nous avons l'impression que cette tendance a peut-être été inversée dans le cas de cette mobilisation. La décision Kanyenda arrive donc à un moment charnière de l'histoire juridique canadienne et québécoise. Cela dit, le climat politique au Québec est tel qu'il semble possible que la Cour suprême n'ait malheureusement pas le mot de la fin. En effet, le jour même de la publication de la décision, la majeure partie de la classe politique québécoise s'est prononcée en faveur du recours à la disposition de dérogation pour empêcher les enfants en demande d'asile d'accéder aux places subventionnées, cela afin de donner la priorité aux enfants québécois. Il faut dire qu'à quelques semaines des audiences de la Cour suprême sur le recours à la disposition de dérogation dans le cadre de la loi sur la laïcité de l'État, l'idée de déroger aux droits et libertés afin d'exprimer son caractère distinct avait le vent en poupe. Néanmoins, de récentes sorties publiques, notamment par les femmes politiques issues de trois partis, laissent penser que la classe politique n'est peut-être pas aussi unanime qu'on pourrait le croire. À l'heure où le gouvernement en place justifie entre autres ses mesures identitaires au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est assez ironique de voir qu'il n'a aucune gêne à recourir à la clause dérogatoire pour contourner une décision qui conclut à la discrimination contre les femmes causée par une loi dont l'objectif est pourtant spécifiquement de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est d'autant plus consternant que notre système de garderie est l'une des composantes de ce qui fait du Québec une société distincte sur le plan social en Amérique du Nord. Cette réaction illustre de façon éloquente la profondeur de la déshumanisation des personnes migrantes qu'on trouve dans la pensée de certains acteurs politiques. La décision Kanyenda arrive donc à un moment charnière de l'histoire juridique canadienne et québécoise où, dans un contexte mondial marqué par la montée des autoritarismes et l'érosion du droit international et des droits de la personne, on s'interroge sur les limites qui devraient être imposées à la possibilité pour les gouvernements de ne pas remplir leurs obligations en matière de respect des droits humains. Cette lutte risque de se poursuivre sur le plan politique. Si tel est le cas, il faudra alors exiger des comptes au gouvernement québécois pour qu'il justifie son choix de faire fi à la fois du droit des femmes à l'égalité et du droit des enfants à l'éducation. C'était Victoire devant les tribunaux pour l'accès aux garderies. Un texte de Louis-Philippe Janard et Maryse Poisson, avec la collaboration de Tania Henriques, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés.
Le mystère de l'hypnose sous la loupe des chercheurs. Un texte de Pauline Gravel, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. L'hypnose fascine depuis toujours et demeure encore mystérieuse. Comment permet-elle de réduire la douleur durant une procédure chirurgicale? Pourquoi certaines personnes y répondent mieux que d'autres? Comment atteint-on l'état de transe hypnotique? Des scientifiques commencent à trouver des pistes de réponse à ces questions. Au congrès de l'ACFAS, qui avait lieu en mai 2026 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, un colloque entier y a été consacré. De manière générale, l'hypnose permet d'altérer l'expérience subjective de la douleur au point où on ne la ressentira plus, ou beaucoup moins, à l'aide de suggestions verbales. L'hypnose change comment le cerveau interprète le signal de douleur, résume en entrevue le neuropsychologue Mathieu Landry, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval, qui présidait et animait le colloque. Sachant qu'entre 10 % et 15 % de la population est résistante à l'hypnose, des scientifiques de l'Université Laval et de l'Université de Montréal ont cherché ce qui distingue ceux qui atteignent facilement cet état de ceux qui y sont réfractaires. En procédant à des enregistrements d'électroencéphalographie du cerveau, ils ont réussi à établir des schémas particuliers de l'activité cérébrale chez les personnes qui répondent très bien aux suggestions hypnotiques. Il s'agit d'un marqueur latent qui est présent dans la vie de tous les jours et pas nécessairement durant l'hypnose. Plus précisément, les personnes plus sensibles aux suggestions hypnotiques présentent davantage d'inhibition que d'excitation au sein des populations de neurones de leur cerveau, indique M. Landry. Lors d'études d'imagerie par résonance magnétique, les chercheurs ont également montré que toutes les personnes qui répondent fortement aux suggestions hypnotiques visant une atténuation de la douleur ont un schéma d'activité cérébrale qui est très semblable et qui diffère manifestement de celui des personnes qui répondent moins bien à l'hypnose, au moment précis où elles entendent la suggestion. Ces similarités sont observées surtout dans les régions auditives et les zones intervenant dans la gestion de la douleur. Dès qu'ils entendent la suggestion hypnotique, les gens qui ont cette facilité à y répondre présentent ces patrons-là. Cela nous dit qu'ils décodent facilement le contenu verbal de la suggestion et qu'ils convergent tout de suite vers une stratégie efficace pour gérer la douleur en envoyant des signaux vers les différents centres de contrôle de la douleur. On dirait que leur cerveau décode l'information de façon différente des gens qui répondent moins bien aux suggestions hypnotiques, avance M. Landry. Les chemins de l'hypnose. Mais les personnes qui répondent bien aux suggestions hypnotiques peuvent atteindre la transe hypnotique par des chemins différents, affirme le chercheur. L'un de ces chemins fait appel au phénomène de distraction. Un dentiste aujourd'hui décédé avait recours à cette pratique avec succès lors d'interventions très douloureuses qu'il a filmées, relate M. Landry. Dans l'une de ses vidéos, le dentiste propose à sa patiente de s'imaginer dans un endroit qu'elle aimait. Celle-ci s'est alors projetée dans ses souvenirs de Paris. Le dentiste interagit constamment avec elle au cours de la procédure en lui demandant de décrire où elle se trouve dans Paris. Lorsqu'on regarde la patiente, on voit clairement qu'elle est mentalement en train de revivre ses vacances à Paris. Elle n'est absolument pas sur une chaise de dentiste. Le cerveau de la patiente est distrait, son attention est ailleurs que dans le bureau du dentiste. L'expérience douloureuse n'est donc pas centrale dans ce qu'elle est en train de vivre, explique M. Landry. La technique de distraction consiste principalement à inciter le patient à quitter son corps, à aller ailleurs, dans une autre expérience, dans un endroit agréable et sécuritaire, ajoute le psychologue David Oguez, clinicien-chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. M. Oguez utilise la méthode VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, pour aider ses patients à atteindre cet ailleurs. Cette méthode incite les patients à visiter un endroit par les cinq sens. Par exemple, j'envoie le patient à la plage. Je lui demande de regarder le sable, le ciel bleu, de sentir les odeurs de l'air salin, la chaleur du soleil, d'écouter le chant des oiseaux, de goûter une crème glacée. L'idée est de mobiliser les sens pour reconnecter le cerveau à un souvenir, ce qui crée un phénomène distractif assez important. La personne est encore dans son corps, mais il y a comme une double conscience qui se met en place. Et celle qui est prégnante, qui prend le dessus sur l'autre, est celle de la suggestion, souligne-t-il. Suggérer, dissocier, contrôler. Une autre voie consiste à utiliser des stratégies de dissociation qui visent à ce que le patient arrive à séparer sa douleur de l'objet de la suggestion hypnotique sur laquelle il concentre désormais son attention. Le dentiste peut dire au patient que sa main est dotée d'un pouvoir analgésique et qu'en la posant sur la partie du corps qui est douloureuse, elle endormira la douleur. Ou encore, grâce à des suggestions hypnotiques, on va attribuer de la légèreté à la main, suggérer qu'elle est source de confort et que le patient peut aller mettre ce confort-là où c'est nécessaire, comme sur une douleur musculaire à la nuque, donne-t-il en exemple. Une troisième technique, dite de contrôle, qu'on utilise plutôt pour les douleurs chroniques, vise à transformer une sensation douloureuse en quelque chose de plus agréable. Si la personne a mal au ventre et a l'impression d'avoir une grosse boule bien lourde dans le ventre, elle peut transformer la boule en un ballon d'anniversaire et venir le percer. Ou bien la transformer en balle de tennis de table qui est beaucoup plus petite et qu'elle pourra digérer. On utilise beaucoup de métaphores dans le but de transformer les sensations, fait valoir M. Oguez. Beaucoup plus répandue en Europe, l'hypnose suscite de plus en plus d'intérêt au Québec, comme en témoignent plusieurs projets de recherche qui sont en cours. C'était « Le mystère de l'hypnose sous la loupe des chercheurs », un texte de Pauline Gravel paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.